Les trois prochains dimanches, dont aujourd'hui, le 16, le 23, le 30, on va finir l'année avec trois impératifs de Paul aux Éphésiens qui font partie de notre grande thématique qui est la vie de l'Esprit. Je bénis Dieu. Plus je lis, plus je vois sa parole, plus je me rends compte qu'il n'y a vraiment rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a vraiment rien qui soit impossible au Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est la personne toute puissante. Et il n'y a rien qui lui soit impossible. Et quand nous n'avons pas plus de ses bénédictions, de ses manifestations, de son approbation, de son huile, de son vent, de son souffle, de son feu, de son action, de ses manifestations diverses et variées dans l'Église, c'est simplement parce que nous avons empêché le fleuve de couler. Nous avons empêché l'huile de se répandre. Nous avons fait blocage. Et l'apôtre Paul va insister, et ce sera nos trois points sur les trois dimanches à venir, l'apôtre Paul va insister sur trois impératifs aux Éphésiens. Alors si vous voulez bien, on va ouvrir aujourd'hui l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, et on va regarder ensemble ce premier impératif. Vous voyez tout de suite, je vous donne un petit peu le tableau, l'aperçu général. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Ce sont trois impératifs, trois injonctions de l'apôtre Paul que nous trouvons juste, sans compter tout le reste, que nous trouvons juste dans l'épître aux Éphésiens. Ce sont des injonctions très fortes, ce sont des impératifs qui vont assurer la qualité de vie des membres du corps et qui vont garantir l'unité que Dieu nous a acquise à la croix. Et ce n'est pas à nous de constituer l'unité, l'unité elle est constituée par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est à nous de ne rien faire, de ne rien dire, on va le voir, c'est à nous de ne pas briser l'unité. Ce n'est pas que nous qui allons constituer l'unité, c'est que nous ne devons pas briser l'unité. Et ici, dans ces injonctions, Paul va montrer en toute simplicité comment nous pouvons garantir l'unité que Dieu nous a acquise à la croix et par conséquent la bénédiction, l'approbation de Dieu sur nos cœurs, sur nos vies. Trois impératifs avant que je passe à l'image suivante. Je vous laisse quand même bien considérer que ce sont des impératifs qui sont de notre responsabilité. Efforcez-vous, c'est votre problème. N'attristez pas, c'est votre problème. C'est ce que vous avez à faire ou ne pas à faire. Efforcez-vous, n'attristez pas. Ça ne concerne pas Dieu, ça ne concerne pas les anges, ça ne concerne pas Jésus, ça ne concerne même pas le Saint-Esprit, ça me concerne moi, ça vous concerne vous. Soyez remplis de l'Esprit, sa volonté c'est de remplir. Mais c'est à moi, c'est moi qui dois lui présenter mon cœur comme un vase vide. Trois impératifs qui sont de notre responsabilité, c'est notre part et c'est à nous de le faire et d'en prendre conscience, c'est à nous d'en prendre connaissance et c'est à nous de le prendre à cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui écrit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. L'unité, frères et sœurs, c'est un élément incontournable, c'est un élément déterminant de la santé spirituelle de l'Église, c'est un élément déterminant et aussi incontournable de la puissance libérée, de l'action de Dieu libérée, de la présence de Dieu qui serait comme relâchée au milieu de nous, afin qu'elle soit plus palpable, qu'elle soit plus réelle, plus évidente, même bien qu'invisible, qu'elle soit pesante, au bon sens du terme. Et ça, c'est un élément qui est incontournable, parce que nous devons bien comprendre, frères et sœurs, que la nature profonde de Dieu, l'unité, c'est pas un truc qu'on a inventé, l'unité, c'est pas un petit quelque chose, c'est pas une option, c'est vraiment un principe du royaume de Dieu. L'unité, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour ? Vous êtes sûr ? Est-ce qu'il est saint ? Vous êtes sûr ? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il est miséricordieux? Vous avez dans l'Écriture une multitude d'adjectifs qualificatifs qui nous montrent les attributs, qui nous expliquent quels sont les attributs de Dieu, qui il est par nature. Mais la Bible me montre, au même titre que son amour, sa sainteté, sa justice, sa patience et tout ce qu'il y a de bon que vous pourriez trouver, la Bible me montre que Dieu est un par nature. La nature de Dieu, c'est l'unité. Dieu ne peut pas être autrement que un. Le Saint-Esprit ne bosse pas dans son coin pendant que Jésus bosse dans son coin et que le Père attend au ciel que tout soit réglé et qu'on y aille. La nature de Dieu, c'est l'unité, parfaitement un. Un même cœur, une même âme, une même pensée, une même vision. Un en toute chose, en tout temps, en toutes circonstances. La nature de Dieu, c'est l'unité. La passion, la préoccupation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu le Père a voulu? Depuis de toute éternité, Dieu le Père veut une épouse pour son Fils. Il veut une épouse pour Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Parce qu'il a une passion, parce qu'il veut une épouse, parce qu'il veut une bien-aimée. Lorsque Jésus est remonté au ciel et que le Saint-Esprit est venu prendre la place à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies, des disciples que nous sommes pour poursuivre ses enseignements, ses œuvres, quand le Saint-Esprit il vient, qu'est-ce qu'il vient faire sur terre? Il vient préparer, il travaille, il prépare l'épouse, parce que la vision commune de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Église. Amen. Le miracle de l'Église, et il faut bien comprendre, frères et sœurs, souvent on a du mal à comprendre l'urgence, l'importance, la portée de ces textes, parce qu'on n'a pas la bonne vision de l'Église. On ne voit pas l'Église comme Jésus, lui, il la voit, comme le Père ou l'Esprit peuvent la voir également. L'Église, c'est un pur miracle, de la grâce et de la puissance de Dieu. L'Église, c'est un miracle. L'Église, ce n'est pas une association humaine. L'Église, ce n'est pas un regroupement quelconque. L'Église, c'est un pur miracle de la grâce de Dieu. Et comme tout miracle, elle est contre l'ordre naturel des choses. Un boiteux qui est paralysé depuis sa naissance, Pierre passe et lui dit « Ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. » Il se lève, c'est contre l'ordre naturel des choses. Tous les miracles, la définition des miracles, c'est qu'ils sont contre l'ordre naturel des choses. Ce qui est miraculeux, c'est ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui est surnaturel. D'accord ? L'Église, ce n'est pas naturel. L'Église, elle est surnaturelle. L'Église, elle est extraordinaire. L'Église, c'est un miracle. Elle n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses que des jaunes, des blancs, des noirs, des rouges, des arabes, des tout ce que vous voulez, que des gens de toute langue, de toute race, de toute nation, de tous horizons, de toute civilisation, de toute culture, de tout peuple, de toute pensée, de tout arrière-plan, de tout historique, que tous ces gens, que tout devrait séparer, soient un dans le Christ. C'est pas naturel. L'Église est un miracle. Ah ! Et ces gens qui ne devraient pas être un sont par le miracle de l'œuvre et de la personne de Jésus, par le lien de l'Esprit, ils sont le peuple de Dieu, ils sont le corps de Jésus, ils sont la représentation. Excusez-moi, frères et sœurs, mais qu'est-ce qu'on fiche là encore ? Depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on fiche là? Pourquoi Jésus ne nous a pas encore pris? Parce que l'Église, ce corps surnaturel et miraculeux, est destiné à être sur la terre la représentation visible du Dieu invisible. Nous sommes là pour être l'expression du cœur de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'en nous regardant, en nous voyant, ils voient Dieu, le Dieu invisible, est rendu visible. Et Pierre dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Je déteste les endroits où il y a des églises de gitans, des églises de noirs, des églises de blancs. Quand je suis arrivé à la région parisienne, un pasteur m'a dit, ah ben tu sais, moi j'ai une église de noirs. Ah, je dis, mais c'est où dans la Bible ça? Et puis l'autre là-bas, il a une église de blancs. Parce que comme les Noirs et les Blancs n'arrivent pas à s'entendre à cause de leur culture, eh ben on a fait chacun notre église, comme ça on est tranquille. Je lui ai dit, oui, mais le problème c'est que tu n'es plus l'église au sens où Jésus l'entend. Vous n'êtes pas l'Église. Vous êtes une association culturelle de noirs et une association culturelle de blancs. Mais vous ne pouvez pas être l'Église au sens où Jésus, lui, la conçoit. L'Église, c'est le miracle par excellence. Un, c'est le chiffre de Dieu. Un. Si on n'a pas lu les versets suivants, mais Paul le dit, versets 4, 5, 6, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, un seul Sauveur, un seul... Un. Le chiffre de Dieu, c'est un. Je m'en fiche que demain, à Manos, qu'on soit 2500 membres. Si on n'est pas un, c'est ingérable. Ce qui compte, ce n'est pas qu'une église soit 50, 500, 5000. Ce qui compte, c'est que peu importe le nombre, il soit un. Et lorsque Jésus a prié en Jean 17 avant de quitter la terre, on voit que sa préoccupation suprême, c'est l'unité de son corps sur la terre. Et il dit, Père, je te prie afin qu'il soit un, comme toi et moi. Nous sommes parfaitement un. C'est le miracle de l'Église. C'est la nature profonde de Dieu. C'est la passion de Jésus. C'est la raison de sa venue. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit œuvrent parfaitement dans une unité absolue, dans un but commun. Il faut une épouse pour le Fils. Frères et sœurs, si vous ne voyez pas l'Église comme ça, pardon, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Si vous n'aimez pas l'Église comme ça, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Si vous ne travaillez pas à l'unité de l'Église ou à maintenir l'unité de l'Église, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Si l'Église n'est pas une, l'Église est une association cultuelle. Mais elle n'est pas l'Église au sens où Jésus l'a toujours conçue. C'est la préoccupation de Jésus, c'est aussi la préoccupation de l'apôtre Paul. Et si vous faites attention, ce que je vais vous sortir ici, on va le retrouver en vérité dans toutes les épîtres. Paul ne priait pas pour que les Éphésiens, les Thessaloniciens ou je ne sais pas quoi, qu'ils aient jamais de problème de santé, qu'ils aient pas de problème, qu'ils aient tous leur bac, qu'ils aient jamais de période de chômage, qu'ils soient jamais malades. Paul, il priait pas pour ça. Je dis pas qu'il faut pas prier pour ça. On peut. La Bible dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Ok, mais l'apôtre Paul, vous voyez quand vous lisez ses épîtres, comme le Seigneur Jésus, vous voyez une préoccupation majeure, une préoccupation fondamentale sur l'unité de l'Église. Parce que c'est l'avenir, c'est l'enjeu, c'est la véracité, c'est la crédibilité de l'Église qui est en cause au travers de son unité ou de sa non-unité. Parce que des fois, on est très malin. On dit, mais moi, j'ai de problème avec personne. Nous, on n'est pas divisés. C'est juste qu'on ne se parle pas. Mon Dieu, fais-nous grâce. Comment est-ce qu'on peut avoir des raisonnements au bout de 40 ans de vie chrétienne, avoir des raisonnements comme ça? Mais non, mais nous, tout va bien. On ne se parle pas. Eh bien, non, si vous ne vous parlez pas, si vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas l'Église. Vous êtes une association. C'est dur, hein? Il faut que ça rentre. L'unité, c'est une préoccupation récurrente, c'est aussi une préoccupation majeure de l'apôtre Paul. Je vous exhorte, on va regarder un petit peu, on va décortiquer rapidement les mots-clés de ce texte. Le mot « exhorter » est un mot très fort qui évoque la supplication, l'insistance désespérée. Paul, après avoir repeint aux yeux des Éphésiens, parce qu'ils ont perdu des choses fondamentales, il y a des choses merveilleuses de la personne et de l'œuvre de Dieu, et de leur propre héritage, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont dans le Christ, qu'ils ont perdu de vue depuis longtemps, Paul écrit, Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, voici tout ce que vous avez dans le Christ, dans Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu l'Esprit, voici qui vous êtes, voici vos bénédictions, voici tout ce que vous êtes, voici tout ce que vous avez. Et chapitre 4, 5, 6, une théologie pratique pour dire maintenant je vais vous expliquer comment ne pas perdre ce que vous avez. Et il commence le chapitre 4 en disant je vous en supplie. L'exhortation ici c'est pas allez fais un effort, c'est je vous en supplie, je vous supplie, autant que je vous avertis, l'Église de Jésus n'est l'Église que si elle est dans l'unité de l'Esprit. Et ça, c'est la préoccupation de Paul. Votre vie, frères et sœurs, ne peut pas marcher si vous n'êtes pas tout entier à Dieu. On le sait. L'Église ne peut pas marcher si elle n'est pas unie. Il faut que chaque membre soit connecté, tout entier, bien connecté à Dieu. Et ensuite, il faut une bonne connexion les uns avec les autres. Pardon, il y a des gens au bout de 40 ans, ils n'ont pas encore compris le ministère de la croix. Il y a des gens, ils ont une croix avec une poutre verticale. Ils n'ont pas une croix comme ça. Ils ont une croix comme ça. Une croix qui les réconcilie avec Dieu. Ils ont une croix amputée. Une croix avec une poutre verticale qui les relie à Dieu. Et ils ont oublié que la croix, volontairement, il y a deux poutres. Il y en a aussi une horizontale. Parce que si la poutre verticale me relie à Dieu et me reconnecte avec le Dieu du ciel, la poutre horizontale, elle nous connecte les uns aux autres. Et inconsciemment, des centaines et des milliers de chrétiens dans notre pays vivent avec une croix amputée. Ils ont juste un poteau planté dans le sol sur le Golgotha. Et ils ont oublié la deuxième partie, qui est tout aussi importante. Je vous supplie autant que je vous avertis. À quel sujet ? Au sujet de vos comportements. Parce que lorsqu'il dit « je vous exhorte à marcher d'une manière digne », qu'est-ce que ça signifie marcher ? Dans la Bible, la marche chrétienne, la marche, désigne notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Marcher d'une manière digne de Christ, ça signifie « comportez-vous » comme Dieu, lui, veut que vous vous comportiez. Comportez-vous d'une façon qui soit conforme aux principes du royaume de Dieu qui sont révélés dans sa parole. Marcher d'une manière digne, c'est la façon dont je me comporte jour après jour. La façon dont j'agis, mes actions. La façon dont je réagis, mes réactions. La façon dont je me comporte, mes attitudes, la façon dont je pense, dont je raisonne, mes prises de position, mes paroles, et que tout ça soit conforme à la nature de Dieu et à son cœur qui est révélé dans sa parole. Avec tout ce que vous avez dans le ciel, dans la personne merveilleuse de Dieu, Éphésiens 4 commence en disant, « Si vous ne voulez pas perdre ça, je paraphrase, je vous supplie, autant que je vous avertis au sujet de vos comportements. Parce que c'est vous, par vos comportements, qui allez favoriser l'action de l'esprit ou qui allez perdre l'action de l'esprit. Et c'est extrêmement important. Parce que si vous regardez l'histoire des Éphésiens, je pense que Paul devait avoir certainement le ventre serré parce que des larmes ont coulé de ses joues. Je ne sais, quand il a écrit aux Éphésiens, parce que ces Éphésiens, ils ont été certes visités, ils ont reçu le salut. Lorsque Paul, on l'a vu en Acte 19, passe à Éphèse, il y a une dizaine de personnes qui sont là, ils sont baptisés au nom de Jésus, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils prophétisent, il y a des miracles, il y a une croissance exponentielle de l'Église à partir de ce moment-là. Paul est leur pasteur pendant 3 ans, et quelques années après, Paul est obligé de leur réexpliquer tout le béaba de l'Évangile, parce que... et de leur dire, attention, vos comportements vont favoriser ou détruire l'action de l'Esprit au milieu de vous. Et quand on regarde le livre de l'Apocalypse, on s'aperçoit que 40 ans plus tard, je mets des grosses guillemets, hein, bizarrement, la première église à laquelle le Seigneur s'adresse, c'est l'église Éphèse. Et le Seigneur leur dit, je connais, je sais. Oui, t'as bossé, oui, t'as persévéré, je sais tout ça. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. Il faut que tu te repentes, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu reviennes de cœur, il faut que tu changes de mentalité, il faut que tout ça, ça change. Parce que si tu ne changes pas dans tes comportements et dans ta mentalité, je vais venir à toi et je vais enlever ton chandelier. Excusez-moi les Éphésiens, ils n'ont rien écouté de ce que Paul a dit. Parce que 40 ans après, ils ont mis la clé sous la porte. Et s'ils n'ont peut-être pas mis la clé sous la porte physiquement, parce qu'il y aura toujours des associations cultuelles, il y aura toujours des chorales, il y aura toujours des moniteurs d'enfants d'école du dimanche, il y aura toujours un pasteur salarié, il y aura toujours. Mais ils ont mis la clé sous la porte au sens, le chandelier a été ôté. Vous n'êtes pas l'église de Jésus au sens où Dieu la conçoit. Moi, quand je lis ça, ça me fait quelque chose. Je me dis, waouh, Seigneur, au fait, on en est où à Manosque? Qu'est-ce qu'on fait là, Seigneur? Et Éphèse, c'est pas la seule église qui a mis la clé sous la porte. Hein. Je vous exhorte, je vous supplie autant que je vous avertis au sujet de vos comportements à propos de votre vocation. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation. Ah ! Ce qui est intéressant, c'est que le mot vocation ici signifie aussi littéralement appel. Nous sommes tous, les uns et les autres, nous sommes appelés. Nous avons une vocation. Nous avons une raison d'être sur cette terre. Votre vocation, c'est quoi ? C'est quoi votre appel ? C'est quoi ma vocation ? Fréquenter 50 réunions par an ? C'est quoi ma vocation, mon appel ? Il faut chanter très bien, c'était magnifique ce matin. C'est quoi mon appel ? Chanter le mieux possible ? C'est quoi mon appel ? Trouver toujours des chants nouveaux ? C'est quoi mon appel ? C'est quoi ma vocation ? Pourquoi le Seigneur te laisse ici ? T'as pas encore repris. C'est quoi ma vocation ? Mon appel, ma vocation, c'est d'être l'église de Jésus. Ici-bas, mon appel, ma vocation en tant que membre de ce corps miraculeux qu'est l'Église, c'est de me comporter de telle sorte que l'Église reste l'Église au sens où Jésus la désire. Et là, ça engage une énorme responsabilité de ma part. Parce que je vous l'ai toujours dit, un grand privilège amène toujours une grande responsabilité. Mon appel, notre vocation, c'est d'être l'église de Jésus sur la terre. C'est d'être la représentation de son cœur. C'est d'être l'image visible d'un Dieu invisible. Mais ça, c'est possible que si l'église est un. Sinon, elle ne peut pas être l'expression du cœur de Dieu. Elle reste une association, pardonnez-moi, une quelconque association cultuelle. Ta vocation, mon frère, ma sœur, c'est qu'ici-bas, tu n'es pas seulement un membre de l'Église. Étant un membre de l'Église, tu es l'Église. Et tu ne peux pas être pleinement l'Église si tu n'es pas uni aux autres. Parce que je sais qu'avec les uns, on est très unis. Enfin, jusqu'au jour où parce que même avec les uns, il suffit qu'il y en ait un qui commence à penser un petit peu trop comme moi, je ne pense pas, puis je vais vite prendre mes distances. Mais souvent, on n'a pas de problème avec les uns, d'être unis aux autres. Et je le redis, on est souvent très malin, mais totalement inconscient, lorsque l'on dit « Ah, mais moi, j'ai rien contre lui, mais moi, j'ai rien contre elle. C'est juste que pour l'intérêt de la paix, je ne lui parle pas. » Ce n'est pas la paix divine. Ce n'est pas le lien de l'esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit dans une paix relative. Dieu veut que nous soyons un. Eh bien, on a du boulot. Je vous supplie, autant que je vous avertis, à cause de tout ce que vous possédez déjà dans le Christ et qu'il ne faut pas perdre, d'être extrêmement vigilant sur vos comportements, votre façon de vous conduire. Parce que votre appel, c'est d'être l'Église. Ton appel, c'est pas d'avoir raison dans ton couple. Ton appel, c'est pas d'avoir raison. Ton appel, c'est pas d'être le meilleur. Ton appel, c'est pas de rabaisser l'autre ou de lui fermer le caquet. Ton appel, c'est d'être l'Église. Et pour ça, il va falloir que tu aies le caractère de ton Seigneur. Il va te falloir de l'humilité. Humilité, douceur, patience. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Humilité, douceur, patience sont des caractéristiques, des attributs du Seigneur, au même titre que amour, sainteté, justice, au même titre que l'unité. C'est le caractère, c'est la nature même du Seigneur. Et l'apôtre Paul montre en Éphésiens, en Philippiens, en Thessaloniciens, dans beaucoup d'épîtres, il montre qu'en vérité, c'est la clé de voûte de l'édifice spirituel qu'est l'Église. Sans l'humilité de ses membres, il n'y a pas d'unité possible et l'édifice spirituel, il s'effondre. L'édifice matériel ne s'effondre pas, mais l'édifice spirituel, il s'effondre. L'humilité, c'est la clé de voûte de l'édifice spirituel. C'est la nature de Dieu, c'est le cœur, le caractère de Jésus. Et je m'excuse, l'humilité, ce n'est pas une option et ce n'est pas non plus un degré de qualification ou je ne sais quoi. Non, l'humilité, c'est la vie chrétienne normale. L'humilité, c'est Christ. Humilité, ça veut dire quoi? Parce que là aussi, il y a des moments où on est très fort, on arrive aussi à... Humilité vient du mot humus, le sol. L'humilité, c'est naturellement, c'est tout ce que nous révèle cette perle de Philippiens 2, l'abaissement du Christ, c'est de s'abaisser. L'humilité, humus, le sol, c'est de voir les autres au-dessus de moi. C'est de voir leurs intérêts au-dessus de moi. De voir leurs intérêts plus que les miens. Et la Bible montre que c'est le seul chemin de l'unité. Si je regarde Monique de là où je suis, je la vois de haut. C'est moi le pasteur. Mais si je descends, si je m'abaisse, Monique, je ne la vois plus d'en haut. Mais quand on vit avec un esprit d'abaissement, naturellement, les autres sont toujours plus grands. Vrai ou pas? Soyez pas gênés, Monique. Marcher d'une manière digne, en toute humilité et douceur. Le comportement, la façon d'être, l'état d'esprit que Dieu attend de chacun de ses enfants, c'est l'abaissement. Parce que quand je suis en bas, naturellement l'autre est élevé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a parfois nos définitions un petit peu pernicieuses et subtiles de l'humilité. On dit « Ah non, 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 mais c'est pas moi. Non, non, vous savez moi. Oh, je suis au bénéfice de la grâce du Seigneur. Je ne suis rien de... Non, je ne suis rien, moi. Moi, vous savez, je ne suis rien. Moi, je suis humble. Je ne m'élève pas. Mais le problème, c'est qu'au quotidien, dans mes pensées, dans mes paroles, j'abaisse les autres. Et si j'abaisse les autres, automatiquement, sans m'élever, je suis élevé. Puisque j'abaisse les autres, automatiquement, je suis élevé. Et très souvent, c'est dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans nos paroles, on ne s'en rend pas compte. On abaisse les autres en parole et en pensée. Puis on dit, oh, vous savez, moi, je ne m'élève pas. Non, mais tu as abaissé l'autre. Et c'est exactement la même chose. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu abaisses l'autre, je veux que tu t'abaisses toi. Parce que quand tu vas t'abaisser toi, l'autre tu vas le voir plus grand. Quand tu vas t'abaisser toi, tu vas voir les intérêts de ta sœur et de ton frère supérieurs aux tiens. Si je suis en bas, et si moi je m'abaisse, et que les autres s'abaissent, on se retrouve tous sur le même plan, autour de notre Seigneur. Et on se retrouve là, dans une parfaite unité. Le secret de l'unité, c'est l'humilité. L'unité du corps de Christ ne se fait que par le bas. Elle ne se fait que là. Elle ne se fait nulle part ailleurs. Elle ne se fait que par le bas. Seigneur, change mon cœur. Je pense que le plus direct, le mieux, c'est que tu changes mon cœur, ça ira plus vite. Change mon caractère, Seigneur. Change ma façon de penser. Comme ça, ça changera ma façon de parler aussi. Ah ben oui, mais le Seigneur, il est très pratique. Après, il y a ce petit passage, je termine avec ces deux petits points, ce petit mot que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Alors là, franchement, Paul, il est exceptionnel. Je vous supplie autant que je vous avertis au sujet de vos comportements. Marchez de façon conforme à votre appel, qui est d'être l'Église sur la terre. En toute humilité, douceur, patience, ça c'est le moyen, c'est le caractère de Jésus. Vous supportant les uns les autres. Alors ça, j'aime beaucoup, vous supportant. Parce que le Seigneur n'a pas dit vous subissant les uns les autres. Bon, parce que je suis chrétien, je dis rien. Je dis rien parce que le pasteur, il a prêché dimanche, je dis rien. Mais il m'énerve, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Mais elle m'énerve. Ah mais, mais franchement, il n'y a pas quelqu'un qui va lui claquer le beignet à celle-là. Mais... Ça s'appelle se subir les uns les autres. On se subit. On est résigné. Ah ben qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, il est nul. Mais bon, ben, on fait avec ce qu'on a. Puis comme on est spirituel, ben, on patiente. Paul, quand il dit supporter, c'est aussi une conséquence de l'humilité. Hein. Pour supporter quelqu'un, c'est pas je subis les rasoirs, il me barbe, j'ai que lui, ben tant pis, je vais me débrouiller avec ce que j'ai, on fait avec ce qu'on a, hein, Seigneur. Non, non, supporter, c'est toujours dans la pensée de l'humilité, je vais me mettre en dessous parce qu'il faut pouvoir porter. Et je ne peux pas porter quelque chose comme ça. Pour porter, il faut déjà descendre, il faut se mettre en dessous. Et ensuite, on peut supporter, c'est-à-dire qu'on peut porter par le dessous, d'accord? Donc les uns les autres, vous êtes appelés à vous porter les uns les autres par le dessous. Le problème que font, si un jour je fais l'erreur, vous venez me voir. Le problème que font beaucoup de pasteurs, c'est qu'ils ne se mettent pas en dessous pour porter les âmes. Ils tirent sur les chrétiens. Si un jour vous avez plus le sentiment, je vous le dis officiellement, si un jour vous avez le sentiment que je ne vous porte plus, mais que je vous tire, je me repens ou je pars. Mais le jour où je ne vous porte plus, supporter, se mettre en dessous pour porter les autres. C'est aussi la pensée d'un supporter. Il y a une notion dans ce verbe, il y a une notion d'encouragement. On est supporters les uns des autres, il y a une notion d'encouragement. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres, à nous porter. Oui, ce qu'il a fait n'était pas parfait. Oui, ce qu'elle a fait n'était pas parfait, et en plus entravé pas seulement par des limites et des défaillances, mais aussi par un caractère, parce que c'est un chef-d'œuvre en devenir, ma sœur. Mon frère, c'est juste un diamant qui n'est pas encore tout à fait fini, et il faut que ça avance. Mais je veux être un encourageur, ça se dit pas, je veux être un supporter, je veux porter, je veux m'abaisser, et supporter mes frères et mes sœurs. Et je vais vers l'autre qui n'a pas le même caractère que moi, qui a encore ses limites, ses défaillances. Et même quand j'entends une fausse note à la chorale, je dis « Merci Seigneur, c'est génial, c'était beau, j'étais au ciel quand on a chanté ton onction, ça m'a fait du bien. » J'étais tellement focalisé sur l'onction que je n'ai même pas entendu s'il y a des fausses notes. J'en sais rien, je ne sais pas, puis à la limite ça ne m'intéresse pas. Et on va s'encourager, on va dire « Merci ». Continue, je suis avec toi, je suis derrière toi, on y va, on lâche rien, je suis avec toi, je suis là. Et vous voyez comment on peut se prendre la tête dans une église, pour des oui, pour des non, ça ne sert à rien du tout. Supportez-vous, soyez des encouragements les uns pour les autres. Excusez-moi, mais si je devais interroger l'église au sujet de toi, est-ce que l'église peut me dire, oh, ce frère, c'est vraiment un encouragement pour moi. Oh, cette sœur, quand elle ouvre la bouche, je suis... je suis revigoré, je suis... Est-ce que les autres, quand ils te regardent, quand ils te voient, quand ils te sentent entrer dans une pièce, est-ce qu'ils se sentent mal à l'aise ou est-ce qu'ils se sentent littéralement portés? Ah, ouf, il est là. Ah, ouf, elle est là. Ah, merci Seigneur. Il n'est pas parfait, moi non plus, mais ensemble, c'est... Merci mon Dieu. Qu'est-ce que les autres, ils pensent de toi, en termes d'encouragement? Ah. Je termine avec ce point. C'est cette première grande injonction de l'apôtre Paul aux Éphésiens que je termine ici avec la fin du verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant, là encore on a des mauvaises définitions, vous efforçant, c'est pas dis quand même, tu pourrais faire un effort pour parler un peu moins. Dis, s'il te plaît, tu pourrais faire un effort pour être gentil. Dis, s'il te plaît, tu pourrais faire un effort pour mettre un filtre à ta bouche. En attendant que tu arrives à tenir ta langue et puis que tu changes de cœur et de pensée, est-ce que tu pourrais peut-être juste mettre un filtre à ta bouche pour dire les choses un peu plus gentiment ? Quand tu parles, on n'est pas obligé d'avoir l'impression qu'on se prend une claque. Tu peux aussi dire les choses autrement, s'il te plaît ? Tu peux avoir une autre façon de parler avec tes frères et sœurs ? Mais là, ça s'appelle faire un effort. Et ici, l'apôtre Paul, quand il emploie le mot « vous efforçant », le verbe grec, littéralement, c'est « spoudazou », ça signifie « s'appliquer ». Je vais m'appliquer, je vais apporter dans la pensée, je vais apporter un soin particulier. C'est pas que je vais faire un effort, c'est que je suis là en face d'un diamant. Je suis là en face de quelque chose qui est beau, du cristal par exemple, qui est précieux. C'est du cristal et devant cette perle précieuse qu'est l'Église, je vais apporter un soin et une attention toute particulière. Ce même soin, cette même attention que nous avons envers un nourrisson, envers un bébé, envers un enfant. C'est un enfant, c'est du cristal, c'est votre diamant, c'est votre perle, c'est votre vie. Et Paul dit aux Thessaloniciens, « Mais j'ai pris de vous un tendre soin, comme une nourrice prend soin de ses petits, comme une nourrice prend soin de ses petits, parce que vous êtes beaux aux yeux de Dieu, parce que vous êtes des chefs-d'œuvre en devenir, parce que vous êtes du cristal. » Et avec le cristal, on fait extrêmement attention. Et avec du cristal, on n'est pas un éléphant. Vous connaissez l'expression « un éléphant dans un... » Ah voilà, il y en a deux qui suivent. « Dans un magasin de porcelaine. » Et ici, l'apôtre Paul dit « Vous allez apporter un soin particulier, vous allez vous appliquer à ce que l'unité de l'esprit soit conservée. » Je vais apporter un soin particulier, quel que soit, et j'insiste, quel que soit le prix à payer. Vous efforçant, spoudazou, est aussi un verbe qui évoque le prix. L'unité, elle a coûté extrêmement cher à Jésus sur la croix. Vrai ou pas ? Le salut du frère ou de la sœur qui est de l'autre côté, qui ne fait pas partie de ta bande, a coûté extrêmement cher au Seigneur à la croix. Et il est beaucoup plus précieux que tes yeux spirituels ne conçoivent. Et par conséquent, il y a un prix à payer. Oui, je vais apporter un soin particulier, quel que soit le prix à payer. Je suis prêt à payer de ma personne. Je suis prêt à payer de mon renoncement. Je suis prêt à payer en termes d'abnégation. Mon renoncement. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on entende ma voix, que j'ai tort ou raison. Ce qui compte, c'est que l'Église soit préservée. Et quand on est comme Jésus, comme le Père, comme l'Esprit, dans sa vision, dans sa passion pour l'Église, à ce moment-là, le moi automatiquement, qu'est-ce que ça va me coûter ? Mais ce que ça va me coûter, mais c'est moi, c'est une évidence. Il y a bien des choses qui vont passer au second plan. Pourquoi on prend toujours des épingles à cheveux puis qu'on fait des tours Eiffel ? Je ne comprends pas ça. Il y a des gens, ils vous prennent un caillou, ils vous font le Mont Blanc. Ça ne sert à rien du tout. Ce qui compte, ce n'est pas le Mont Blanc ou la tour Eiffel. Ce qui compte, c'est l'unité de l'Église. C'est la beauté, la préciosité, le caractère éternel de l'Église. Et par conséquent, il y a bien des choses qui vont passer au second, troisième, quatrième plan, dont moi. Moi, je pense que, moi, j'aime ce chant. Eh bien, moi, j'aime ce chant. Oui, ben moi, j'aime pas ce chant. Mais on n'en a rien à cirer. L'important, c'est qu'on soit un. L'Église n'a pas besoin d'aimer les chants que j'aime. La chorale n'a pas besoin d'aimer mes chants. Ce sont des choses qui passent en deuxième, troisième, quatrième plan d'importance. Alors, évidemment, l'unité ne peut se faire que sur la base de la doctrine, c'est une évidence. On ne touche jamais à la doctrine. La doctrine est immuable. Sans la doctrine, il n'y a pas d'unité. On ne touche jamais à la doctrine. Je ne suis pas un avec des gens qui ont une autre doctrine. Ça, c'est clair. Paul dit, il y a une saine doctrine. Là aussi, il y a une unité de pensée dans la doctrine. Je ferme la parenthèse. Mais sur toutes les choses, vous avez compris, diverses et variées, de la marche de l'Église, des formes, des goûts, des couleurs, des uns, des autres, de j'aime pas, de j'ai envie, j'ai pas envie. Pardon, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'unité. Et je vais payer, je vais m'efforcer, je vais m'appliquer, je vais payer le prix qu'il faut payer de ma personne pour que l'unité soit préservée et que l'Église puisse conserver tout le sens que Dieu lui donne, qu'elle puisse être l'Église sur la terre au sens où Jésus, lui, il la veut. Merci Seigneur, et moi par mes comportements, je veux être encourageant et je veux favoriser l'œuvre de Dieu dans la vie de chaque membre qui sont l'Église.